Désormais 425,85 $. Quant au CAC 40, eh bien, il avance toujours de 0,60% à 3641 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Le résultat des courses en gain avec la première course, la combinaison gagnante du Quintet Plus, 14, 2, 8, As et 10. 14h03 sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Bonjour Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, 30 janvier 1889, une des énigmes les plus célèbres de l'histoire, le mystère de Meyerling.
Dans l'intérêt supérieur de l'Empire, devant nous, empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie, vous faites le serment de garder à jamais le silence sur ce dont vous avez été les témoins à Meyerling.
Je le jure.
D'histoire. Si un prince héritier d'Autriche n'y était pas mort il y a 115 ans, personne ne connaîtrait sans doute le nom de ce qui n'était qu'un simple pavillon de chasse à 35 km de Vienne, Meyerling. C'est là que le 30 janvier 1889, à 7h30 du matin, un valet de chambre découvrait les cadavres du fils unique de l'empereur d'Autriche-Hongrie, Rodolphe de Habsbourg, et de sa maîtresse de 17 ans, Marie Vetsera. C'était le début d'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire. Après avoir tenté de cacher la présence de Marie Vetsera à Meyerling et de faire croire pendant quelques heures que Rodolphe était mort d'une embolie, le gouvernement autrichien finit par adopter la thèse d'un double suicide. Deux amants victimes d'un amour impossible, il n'en fallait pas plus pour alimenter l'imagination des historiens, des romanciers et des cinéastes qui pendant plus d'un siècle ont confirmé la thèse du suicide, même si, quelques heures après le drame, les médecins eux-mêmes ont émis des doutes sur ce qui est devenu l'explication officielle de la mort du prince héritier d'Autriche à Meyerling.
Sire, le corps du prince héritier a été déposé dans son appartement. Les médecins l'y attendaient.
Alors, messieurs, nos constatations sont faites, monseigneur. La mort a été instantanée. Elle a été causée par la pénétration d'une balle de revolver entrée par la tempe gauche et ressortie par la tempe droite.
Eh bien.
Mais, monseigneur, le prince héritier n'était pas gaucher.
Entendons-nous, mon cher professeur. On ne vous demande pas de déterminer les circonstances de la mort. C'est l'affaire de la police secrète que je contrôle. Et l'empereur sait mieux que personne ce qu'il faut en penser. Devant les faits, il s'est résigné à l'évidence du suicide.
Monseigneur, en notre âme et conscience, nous ne saurions conclure au suicide.
Si ce n'est pas un suicide, qu'est-ce que c'est ?
Si ce n'est pas un suicide, qu'est-ce que c'est ? C'est toute la question que l'on se pose encore plus de 100 ans après la mort de Rodolphe d'Habsbourg à Meyerling. La question que se pose aussi mon invité dans un livre passionnant, Rodolphe et les secrets de Meyerling. Jean Descartes, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre l'extrait d'un film de Jean Delannoy, qui est, selon vous, le plus fidèle à la réalité et qui, comme vous, n'écarte pas l'hypothèse d'un meurtre de Rodolphe à Meyerling. Qu'est-ce qui vous a fait douter, vous, de ce qui est, depuis 115 ans, la version officielle, c'est-à-dire le suicide ?
Eh bien, c'est une déclaration inattendue que m'a faite l'impératrice Zita, la dernière souveraine d'Autriche-Hongrie, le 10 novembre 1982, la veille de son retour en Autriche après 63 ans d'exil. Il faut rappeler que cette grande dame, petite femme par la taille physique, a été la dernière souveraine. Elle était la veuve de l'empereur Charles qui vient d'être béatifié par le Vatican. Et cette personne extraordinaire qui parlait 8 langues et qui avait toute sa tête, je tiens à le dire tout de suite, n'avait jamais parlé sur cette question. Et personne, d'ailleurs, à la cour, ne s'était exprimé officiellement ou officieusement après la chute de l'Empire en 1918. Et si elle parle, Zita, en mars 83, elle m'a fait l'honneur de me donner ses révélations en avant-propos, avec un embargo que je n'ai utilisé qu'à partir du mois de mars 83, c'est parce qu'elle voulait parler en terre autrichienne quand elle n'était plus exilée. Et pour elle, en résumé, Rodolphe ne s'était pas suicidé. on l'avait tué et le mobile n'était pas une histoire d'amour, mais une affaire politique.
Alors les raisons d'un meurtre, en effet, ne manquaient pas. D'abord parce que Rodolphe, c'est pas n'importe quel prince qui s'ennuierait à la cour de Vienne. C'est le fils unique de l'empereur d'Autriche et de Sicile.
C'est le seul fils, oui, du couple impérial. C'est le futur empereur d'Autriche et roi de Hongrie, qui est un garçon très intelligent. Et ce que je montre dans ce livre, c'est que c'est pas du tout un homme qu'on a connu seulement par sa mort énigmatique, mais c'est un garçon brillant, qui a des idées très très modernes, qui est passionnant, qui est plein de charme. Il n'est pas beau, il séduit tout le monde, et il voyage, et il a des vues politiques passionnantes sur le destin européen.
Quand vous dites idées modernes, c'est d'abord aussi ses amitiés. S'il est en mauvais terme avec son père, avec l'empereur, c'est qu'il a des amis qui sont anticléricaux, même parfois républicains. Il y en a même un très connu, qui était journaliste, Maurice Seps, qui était à la fois très, qui contestait le régime impérial et qui était juif en plus, ce qui à l'époque était mal vu à la cour.
Oui, c'était mal vu, bien que dans l'Empire il y avait une extraordinaire tolérance, n'est-ce pas ? Il y avait 15 nationalités, on peut dire, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie et 5 religions pratiquées, y compris le judaïsme, avec un grand souci de tolérance de la part de François-Joseph. Mais ce qui inquiétait l'empereur, c'était la façon dont Rodolphe vivait, c'est-à-dire que Rodolphe rentrait se coucher à 5 heures du matin, à l'heure où son père était déjà debout pour travailler à l'Empire. Je rappelle que l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'est 9 fois la superficie de
l'Autriche-Hongrie. Très puissant à l'époque.
Et Rodolphe fréquente des gens libéraux, libres penseurs, il n'a plus la foi. Il est surtout convaincu que l'Autriche est encore figée comme au temps de Metternich, après la tourmente napoléonienne, et qu'on est allé à l'époque du chemin de fer, du télégraphe, il faut bouger.
Alors parmi ses amis, justement, il y en a un autre, son cousin, Jean-Salvatore, avec lequel Rodolphe partage des projets de transformer justement cet empire d'Autriche-Hongrie quand il deviendra empereur. On écoute un autre extrait du film de Jean Delannoy avec Jean Marais dans le rôle de Rodolphe.
L'Autriche est vieille, Jean-Salvatore, mais elle a encore un rôle grandiose à jouer. Porter la civilisation chez les peuples balkaniques, les englober dans l'Europe. Un immense état fédératif, le tout sous l'autorité d'un pouvoir central, mais libéral, démocratique. L'Allemagne féodale serait isolée.
Ça ne te ferait rien que nous redescendions un peu sur terre.
C'est quand je parle avec toi que je m'exalte. Nos conversations me remontent le moral. J'y vois clair, moi. L'extension vers l'Orient. Voilà le secret de l'évolution de l'Europe. Jean-Salvatore, c'est à Constantinople que je serai empereur.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le mystère de Meyerling et cette valse de l'empereur composée par Johann Strauss en 1888, c'est-à-dire un an avant la mort de Rodolphe à Meyerling. Jean Descartes et Rodolphe, qui ne sera jamais empereur puisqu'il sera assassiné bien avant la mort de son père auquel il devait succéder, avec des idées, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, très précise sur ce que doit devenir l'Autriche quand il en sera empereur. L'Autriche, qui, il faut le rappeler, est un empire vermoulu, composé d'une mosaïque de peuples qui tirent à hue et à dia pour obtenir l'indépendance.
Alors ce qui est intéressant dans le cas de Rodolphe, c'est qu'il a des idées qui sont d'une actualité phénoménale en 2004. Deux points. Premièrement, le problème des minorités. C'est ça qui alimente la poudrière des Balkans. On le voit lors des élections au Kosovo aujourd'hui avec la minorité serbe. Il le dénonce déjà. Ce sont les minorités qui mettront le feu à l'Europe. Et deuxièmement, l'Empire ottoman qui se désagrège, l'homme malade de l'Europe. Eh bien, on voit que la Turquie est toujours une bombe de discorde vis-à-vis de l'Europe. Et là, Rodolphe a une réflexion très intéressante. Ne mettons pas la religion avant la politique, car nous allons au désastre.
Très actuel, hein.
Très actuel.
Alors, on l'a entendu. Il veut rassembler ces peuples qui ont envie de, pour beaucoup d'entre eux, d'indépendance, dans un empire libéral, à l'opposé, je ne sais pas si le film était reproduit exactement ce que pensait Rodolphe, mais de ce qu'était l'Allemagne. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'aimait pas l'Allemagne pour Rodolphe, et ça aussi, c'est une des choses qui ont fait qu'on a pensé que l'Allemagne pouvait être derrière l'assassinat de Rodolphe, si assassinat il y a eu. l'Allemagne qui était un danger. Il détestait l'Allemagne, Rodolphe.
Alors, il détestait surtout le nouvel empereur, Guillaume II, car malheureusement, l'empereur Frédéric Guillaume, enfin Guillaume précédent, est mort au bout de 99 jours, et c'est une catastrophe pour toute l'Europe, même le futur roi Édouard VII le dit. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que dans un premier temps, Rodolphe pensait que, en se tournant vers l'Est et vers la Hongrie, comme l'avait fait Sissi avec le compromis austro-hongrois, l'Autriche arriverait à effacer le drame de Sadova, où elle avait été battue par la Prusse. Mais, avec l'arrivée de Guillaume II, militariste, botté et casqué, il pense qu'il faut absolument prendre l'Allemagne impériale, celle de 1871, en étau et faire une alliance d'urgence avec la France et la Russie,
alors,
et éventuellement...
Alors que l'Autriche était l'allié de l'Allemagne.
Absolument.
Et donc un renversement d'alliance qui pouvait inquiéter les Allemands, Jean Descartes.
Mais tout ce que Rodolphe annonce a été malheureusement avéré et personne ne l'a écouté.
Alors il était l'ami justement de Clémenceau en France, du prince de Galles, le futur Édouard VII, le fils de Victoria. Édouard VII d'ailleurs avec lequel Rodolphe partage le goût des femmes, même s'il est marié, il collectionne les aventures avec des femmes que lui présente sa cousine Marie la Riche, grâce à laquelle le 5 novembre 1888, Rodolphe rencontre celle avec laquelle il va mourir 2 mois et demi plus tard.
Mon cousin, m'autorisez-vous à vous présenter la baronne Marie Vetsera.
Comtesse impériale.
Tiens, vous êtes une protégée de la comtesse?
Oui, Comtesse impériale.
Compliment, ma chère. Cette fois, vous avez rajeuni vos troupes. Bonsoir.
Dire que je suis avec votre Altesse impériale. Dire que j'en ai rêvé des jours et des jours, sûr que ça n'arrivera jamais. Et maintenant dire que le prince héritier d'Autriche fait attention à moi.
Leur tourne. Il est prudent que vous rentriez.
Je vous revois bientôt. Par votre cousine la Riche, n'oubliez pas. À bientôt, Rodolphe.
Alors c'était Marie Vetsera présentée à Rodolphe par un personnage étrange qui se trouve au cœur de l'affaire de Meyerling, Jean Descartes, c'est la comtesse Lariche, la cousine de Rodolphe.
C'est une
peu entremetteuse.
Voilà, une cousine entremetteuse qui a un statut social un peu affaibli, d'après elle, et que Sissi, la mère de Rodolphe, a pris sous sa protection à la cour. Mais depuis longtemps, Marie la Riche rêvait d'une aventure avec Rodolphe. Il est possible qu'elle ait été sa maîtresse, on n'en a pas la certitude. En tout cas, elle aurait aimé être sa femme. Et elle a été mortifiée quand il a épousé la fille du roi des Belges, la princesse de Saxe-Cobourg. Et Marie la Riche est une entremetteuse pour des raisons d'argent, pour des raisons de politique familiale, pour retrouver un rôle à la cour, même si c'est pas brillant d'être l'entremetteuse, et c'est elle effectivement qui va servir de boîte aux lettres, de faux chaperon, mais pendant une période très courte, car je voudrais dire tout de suite aux auditeurs, c'est que l'affaire de Marie Vetsera dure très peu de temps.
Oui,
c'est pas une passion
sur des
années.
C'est par la comtesse la Riche que Rodolphe rencontre Marie Vetsera, une affaire qui a duré peu de temps, puisqu'il la rencontre en novembre 88 et qu'ils sont morts tous les deux en janvier 89. Mais justement, il y a un autre film, je l'ai pas cité, qui évoque avec le personnage de Catherine Deneuve dans le rôle de Marie Vetsera, un grand amour entre Rodolphe et Marie Vetsera. Semble que ce ne soit pas aussi simple, Jean Descartes. C'était un amour de passage au début.
Oui, et puis surtout, l'historien doit raisonner devant des preuves. N'est-ce pas, comme disait Paul Valéry, le vrai, c'est ce qui est vérifiable. Or, nous ne disposons aujourd'hui encore d'aucune preuve de la passion soudaine, fulgurante, qui ravage tout chez Rodolphe.
Et qui aurait pu le pousser au suicide.
Et qui aurait pu le pousser au suicide, ou à la fuite, ou à la volonté de refaire sa vie avec la jeune fille. On a en revanche des lettres de la jeune fille qui montrent qu'elle est assez immature, exaltée, passionnée, mais sincère, je le précise. Elle est sincère. Elle est tombée amoureuse du prince héritier, elle est devenue sa maîtresse en janvier, pendant un opéra de Wagner, qui durait 5 heures, c'est très pratique les opéras de Wagner, parce que comme ça on peut avoir des rendez-vous galants, entre actes compris. Mais en fait, on n'a pas la preuve d'une passion partagée. C'est un amour, je dirais, à sens unique pour l'historien. Car il faut bien faire attention. C'est pas, les fantasmes sont là, ils nous guettent. On a envie d'une nouvelle histoire à la Roméo et Juliette ou à Othello et Desdémone sur fond de Brandebourg et de Valse. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que Marie Vetsera ne fait que passer dans la vie de Rodolphe, même si le destin va les réunir définitivement.
À Meyerling, donc le 29 janvier, ils arrivent alors tous les deux, enfin séparément, mais ils se rencontrent, ils se retrouvent discrètement à Meyerling. Dans quel état était à ce moment-là, nous sommes en janvier donc 89, ce jour-là, dans quel état était Rodolphe? Je crois qu'il avait vu son père. qui lui avait fait part, justement, de son inquiétude, considérant que son fils était, il le lui dit, qu'il était en danger.
Oui, mais et en même temps, on n'a pas de grande preuve de cette rencontre, une altercation entre le souverain et son fils, donc il faut rester très prudent. Ce qui est certain, c'est que à ce moment-là, il y a un problème politique énorme en Hongrie, qui est le vote d'une nouvelle loi militaire, où l'idée est de remplacer la langue magyare, la langue hongroise, par l'allemand. Et ça, ça affole Rodolphe, qui se dit c'est un gage donné aux germanophones, aux germanophiles, donc à Guillaume II. Il faut absolument empêcher cela. Et c'est son souci. On voit bien qu'il n'est pas uniquement épris d'amour quand il part pour Meyerling ce lundi 9 janvier. Il va à Meyerling pour chasser officiellement, mais il attend des nouvelles de la Hongrie. Et comme il veut que ce soit discret, il ne fait pas installer de télégraphe, comme il le fait d'habitude, par une escorte militaire dans le pavillon de chasse. Et ce point va être essentiel parce que l'absence de communication rapide va pousser la cour, le gouvernement, à être dépassé par les plus folles rumeurs quand le drame sera découvert.
Qu'y a-t-il, oui, le prétexte donc de ce rendez-vous entre Rodolphe et Marie Vetsera, c'est une partie de chasse. Qu'y a-t-il comme témoin? Je crois qu'il y a très peu de témoins.
Il y a très peu de témoins. Il y a le comte Hoyos, il y a Philippe de Cobourg qui est le beau-frère de Rodolphe, qui sait à quoi s'en tenir sur les relations amoureuses de Rodolphe, du prince héritier. Il y a le fidèle valet Lochek, il y a le cocher Bradfisch et du personnel de cuisine. Il n'y a pas d'escorte militaire et officiellement, Rodolphe a voulu faire comme s'il n'était pas là. Et ce qui est très important, c'est que la jeune fille, officiellement, n'est pas là. Elle n'est pas présentée, Marie Vetsera, à Hoyos ou à Cobourg. Elle est cachée dans une chambre jusqu'à la dernière nuit, qui est d'ailleurs leur première nuit.
La première nuit en plus, oui. Alors justement, on sait vaguement ce qui s'est passé ce jour-là. En revanche, à partir du moment où le valet-chambre Lochek quitte Rodolphe et Marie Vetsera, le soir donc du 29 janvier 1889, ils se retrouvent tout seuls. Personne ne sait ce qu'ils ont fait, ni ce qu'ils se sont dit. On ne peut que l'imaginer, ce qu'a fait donc Jean Delannoy dans un film dont je vous propose d'écouter successivement deux versions. D'abord celle que l'on trouve dans une cassette vidéo et qui accrédite la thèse du suicide après que le valet de chambre, donc Lochek, ait quitté la chambre de Rodolphe.
Monseigneur n'a plus besoin de rien ?
Non. Ferme toutes les portes. Ne reviens que si je t'appelle.
Il n'y a pas peur ?
Non.
Tu n'auras pas peur.
Avec toi, ce sera facile.
Marie. Je ne t'aurais apporté que le trouble, l'angoisse, le malheur que je traîne après moi.
Oh, tous les bonheurs, je les ai connus par toi. Nous allons être réunis. Je ne te demande qu'une chose. Tue-moi pendant que je dors.
C'était donc la mort de Rodolphe et de Marie Vetsera, qui avaient donc apparemment l'intention de se suicider, du moins dans cette version du film de Jean Delannoy. Seulement voilà, dans la cassette vidéo dont on vient d'entendre un extrait, le film a été amputé de quelques minutes et surtout d'une phrase qui change tout. Je vous propose d'écouter la version originale du film avec la phrase de Rodolphe justement qui manque. On reprend la même scène à partir du moment où Marie Vetsera s'endort.
Nous allons être réunis. Je ne te demande qu'une chose. Tue-moi pendant que je dors.
Marie. Marie, chérie.
Mmh. Oui, mon amour.
Réveille-toi. Partons. Nous allons vivre.
Alors Marie, réveille-toi, nous allons vivre. Cette phrase qui précède les deux coups de feu et qui existait dans la version originale a disparu dans les cassettes vidéo du film de Jean Delannoy, qui n'avait donc pas exclu l'hypothèse d'un meurtre. Hein. S'il dit nous allons vivre, ça veut dire qu'ils ont été tués.
Alors, Le secret de Meyerling, réalisé par Jean Delannoy en 1949, est le seul film au monde qui évoque toutes les hypothèses et qui montre comment Rodolphe a pu, en tant que suicidaire, en effet assez dépressif, atteint d'une maladie vénérienne, a pu avoir l'idée de se tuer et de tuer la jeune fille d'abord. Mais là, il conclut d'une façon très audacieuse qui avait fait beaucoup de bruit et qui fait que ce film est occulté, est un tabou aujourd'hui, et j'aimerais qu'on le rediffuse au nom de la discussion historique. Il montre comment...
Dans sa version intégrale,
dans sa version intégrale, phrase, ça serait quand même mieux, montre comment, au moment de commettre ce double suicide, indirect et unassisté, en fait, un tueur, alors envoyé par qui, on va en parler, maquille cet assassinat en suicide et donc pose un problème épouvantable à la double monarchie et une énigme fabuleuse aux historiens. Avec ce point étonnant, c'est le premier fait divers touchant une dynastie, une maison régnante et ô combien prestigieuse, qui est couvert par la presse au jour le jour. J'ai retrouvé tous les journaux de l'époque dans tous les pays, et il y a plusieurs éditions par jour qui se contredisent. Apoplexie, bataille avec un garde-chasse, crise cardiaque, assassiné à coup de champagne, enfin on ne sait pas, on a tout.
Alors justement, Jean Descartes, comme Jean Delannoy, hein, donc vraiment le film, et c'est vrai, je l'ai vu, est remarquable, vous ne dites pas, ce n'est pas un suicide. Ce qu'il y a, c'est que vous n'excluez aucune hypothèse, et pourtant quand même, vous le dites vous-même d'ailleurs, il y a eu des lettres annonçant sa mort, signées par Rodolphe.
Alors il y a une lettre en réalité qui a été présentée comme une preuve, mais entre guillemets, car elle n'est publiée d'abord qu'en 1935 par la veuve de Rodolphe, qui est l'archiduchesse Stéphanie. Et cette lettre de Rodolphe, d'abord, même si c'est son écriture, curieusement, elle n'est pas datée. Or, tout son courrier était toujours minutieusement daté, y compris les lettres qu'il a faites à la veille avant de quitter l'Hofburg, le palais de Vienne. Ensuite, elle est écrite sur un papier de deuil, de faire-part, avec une large bande noire, ce qui est tout de même bizarre, comme s'il annonçait sa propre mort par une maison d'entreprise funéraire. Et les lettres de Marie Vetsera, elles, semblent authentiques, comme la sincérité de son amour ne peut être mise en doute. Alors,
elle disait qu'elle voulait qu'elle allait mourir.
Non, elle dit nous allons vers un monde meilleur. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe dans l'au-delà.
Donc ça accréditerait quand même plutôt la thèse du suicide. Alors cela dit, vous les citez tous, il y a quand même des quantités de choses étranges qui l'infirment. D'abord, on a voulu cacher la présence de Marie Vetsera. D'ailleurs, c'est épouvantable la façon dont elle est enterrée à la va-vite dans de la terre gelée à côté de Meyerling. Et pour faire croire qu'elle est encore vivante quand on la sort de la maison, on la met littéralement sur une croix alors qu'elle est morte. Oui, c'est vraiment affreux. Mais il y a aussi la disparition rapide du valet de chambre, le chèque qui va mourir dans des circonstances bizarres. Il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que l'empereur d'Autriche demande à tous les témoins de garder le secret. Le secret sur quoi?
Justement, ceci m'a été confirmé par la petite fille de la dernière grande maîtresse de la cour. L'empereur a fait jurer sur sa personne et sur la Bible, à genoux, à tous les témoins directs et indirects, de ne jamais parler. Alors qu'est-ce qui pouvait être plus grave pour un monarque catholique qui est disposé encore d'un droit de veto à l'élection du pape que d'avoir un fils assassin et suicidé? Il fallait donc quelque chose de beaucoup plus grave, et une menace extérieure. Voilà ce que l'on peut dire, n'est-ce pas, en restant très calme.
Il y a une chose qui est tout à fait étrange aussi, vous le rappelez, c'est quand on a exhumé le corps de Marie Vetsera beaucoup plus tard.
Alors c'est là où les déclarations, les assertions de l'impératrice Zita commence à recevoir un début d'étayage. C'est qu'effectivement, la jeune fille formellement identifiée par la médecine légale et par toutes les techniques actuelles, eh bien, ne présente pas du tout un crâne fracassé par une balle, comme c'était la thèse laborieusement imposée, mais un coup sur le crâne donné sans doute par un objet de type agraire. Donc, déjà, rien que pour ce point, nous avons une contradiction formelle. Or, à cette époque, le nonce apostolique avait dit « la jeune fille n'a pas été tuée par une balle de revolver ».
Admettons, Jean Descartes, donc, qu'il y ait eu meurtre, qui serait le commanditaire? On a évoqué, mais vous expliquez ça, le fait que le propre père de Rodolphe aurait tué son fils.
Oui, ça me paraît l'hypothèse la
plus. Mais les autres, on pense aussi au service secret autrichien, à l'Allemagne aussi.
On pense à l'Allemagne parce que Bismarck avait des ateliers de faussaires qui faisaient des faux documents, et Bismarck était très inquiet du libéralisme de Rodolphe. Il savait que Rodolphe allait dénoncer l'alliance entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Mais on peut avoir aussi les partis catholiques autrichien qui était furieux de voir un athée proche de la franc-maçonnerie futur souverain. On peut, et je ne l'exclus pas non plus, avoir une cause privée, par exemple une bagarre entre Rodolphe et Marie Vetsera, alors qu'il lui dit c'est fini, nous ne pouvons plus être amants, et la jeune fille éventuellement tue Rodolphe, l'ordre du drame n'est pas du tout certain. Et il faut dire que sur le corps de la jeune fille, on a relevé des traces d'échymose qui n'ont rien à voir avec le suicide annoncé.
Jean Descartes, j'ai du mal à comprendre, parce que la thèse officielle depuis maintenant 115 ans continue à rester le suicide, comme s'il fallait absolument qu'on garde cette version romantique, plausible d'ailleurs, vous le dites vous-même, de la mort de Rodolphe et de Marie Vetsera. Mais pourquoi est-ce que ça a encore de l'importance 115 ans après ce drame, 90 ans après qu'est disparu l'Empire d'Autriche, pourquoi dissimulerait-on encore aujourd'hui la vérité?
Parce qu'il était indispensable dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, était indispensable de montrer que Rodolphe n'était qu'un dégénéré, une fin de race, qui n'était pas digne de régner. Il fallait, c'est mon analyse, justifier par tous les moyens l'avènement de la République et l'effondrement austro-hongrois. Discréditer le personnage, comme on l'a fait pour Sissi, alors que Sissi, présenté comme futile, anorexique et fuyante, dit en 1890, l'orage européen éclatera dans les Balkans. Personne ne l'a écouté non plus, et son fils a hérité son caractère visionnaire. Donc il fallait, si je puis dire, salir la personnalité de Rodolphe pour dire, il est mort comme un sous-lieutenant amoureux, il n'était pas digne de régner, donc cet empire avait fait son temps.
Est-ce qu'on saura jamais, est-ce que quelqu'un connaît la vérité, Jean Descartes?
Oui, à mon avis, des descendants directs des Habsbourg connaissent la vérité. Si on voulait savoir, il faudrait ouvrir le cercueil de Rodolphe et obtenir l'autorisation du président de la République d'Autriche, du chancelier, du gouvernement, du parlement et des 543 membres vivants des Habsbourg aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'ouvrir ce cercueil.
Merci Jean Descartes. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre vraiment passionnant, c'est un polar, sauf que la trame est vraie. Un policier historique, mais c'est magnifique. Rodolphe et les secrets de Meyerling, qui a été publié chez Perrin. Je mentionne également l'existence d'un livre qui s'appelle Les impostures de l'histoire de Claude Mossé, qui lui consacre un chapitre à Meyerling, mais lui il est catégorique. Hein. Bon, il s'avance un peu sans doute, mais il dit c'est les Allemands. Vous avez pu entendre des extraits du secret de Meyerling, un film de Jean Delannoy avec Jean Marais, bien sûr, dans le rôle de Rodolphe. Un film distribué en cassette vidéo par René Château, mais dans expurgé d'une phrase que l'on a entendue. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Thomas, Mathias Saléon, documentation Virginie Bloch-Lenay, Claire Tessier et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobilac.